Bonjour à vous tous, j'étais en train de faire l'imbécile, voilà, avec une lampe, c'est ma faute et je me fais avoir. Tout d'un coup, la lumière rouge surgit et ça veut dire, voyons donc, parle, say. C'est ce que je suis en train de vous faire pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à l'émission Les Voix de Service qui se poursuit. Dans quelques secondes, je vais voir ce qu'on peut trouver comme actualité dans le journal La Presse. Alors, à la une de la presse ce matin, ce 16 septembre 2015, journée, vraie journée d'été, en tout cas sur Montréal ici, et on annonce ça pour tout le restant de la semaine. Je ne sais pas comment c'est dans votre coin de pays, mais j'espère que c'est le même ciel bleu que celui que nous connaissons, la même douceur estivale en ce 16 septembre 2015. En attendant, bon, alors allons voir cette une. On parle évidemment de cette chute mortelle dans le fleuve à l'estacade du pont Champlain, cette plateforme qui a cédé sur un chantier en emportant avec elle un travailleur de 44 ans. Également, StarTouch, le Toronto Star prend le virage tablette et ce qui n'est pas écrit aujourd'hui dans la presse mais que je sais, c'est qu'il y a une grande réunion aujourd'hui avec tous les employés de la presse et on se demande si la presse papier ne va pas définitivement disparaître. C'est la question qui se pose. J'imagine que demain, j'aurai peut-être une réponse à cela. Hockey scolaire, c'est fini les mises en échec chez les 13 et 14 ans. À contre-cœur, le réseau du sport étudiant du Québec se range derrière Hockey Québec. Et puis, je reviendrai. Celle qui a dit ça, c'est la bâtonnière suspendue Lu Changquang, qui a démissionné, mais qui tentera de se faire réélire en 2017. Et Yves Boisvert s'exprime sur le sujet en disant « ça ne pouvait plus durer ». Également, au moins les femmes et les enfants, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un monsieur qui exhorte, en fait c'est la Serbie, on voit un type qui est à la frontière entre la Serbie et la Hongrie et on l'empêche de pouvoir franchir cette frontière-là sur cette photo. Et on nous dit que face à cet afflux de migrants qu'elle ne peut plus gérer, la Serbie a exhorté hier la Hongrie à rouvrir sa frontière, au moins les femmes et les enfants. Élection fédérale 2015, Rima El-Khoury parle de l'illusion d'égalité entre les hommes et les femmes, mais elle évoque un essai écrit par Pascal Navarro. C'est un essai dont il sera question pendant le bloc consacré aux actualités culturelles. Alors, avant de regarder ce qui s'écrit sur le prochain gros sujet, parce qu'en fait, c'est ce qui fait la une de la presse ce matin, c'est une exclusivité. On parle des compressions en éducation. Et le gros titre dit que les services aux élèves touchés révèlent... Donc, les services aux élèves seront touchés et c'est ce que révèle un rapport. Et Québec contredit du coup les résultats d'une enquête qu'il a lui-même commandée. Alors, je vous lis ça dans quelques secondes. Mais avant, un petit coup d'œil au clin d'œil de Stéphane Laporte qui dit... En fait, il fait parler Maxime Bernier, qui dit « C'est pas vrai que les gens de la région de Québec aiment juste Metallica. Ils aiment aussi Marie Tournelle. » Ah oui. Alors ça fait la une de la presse, regardons ce qui se dit sur le sujet sous la plume de Denis Lessard dans La Presse. Contrairement à ce qu'a toujours prétendu le gouvernement, les compressions budgétaires qu'impose Québec aux commissions scolaires touchent les services éducatifs, constate un rapport réalisé pour le ministère de l'Éducation. Il y a un an, on s'en souvient, le ministère alors dirigé par Yves Bolduc avait déclenché une enquête sur le bien fondé de la décision de la Commission scolaire des Patriotes de sabrer les services d'aide aux devoirs à la suite de compressions annoncées par le ministre. Québec avait toujours soutenu que les services éducatifs n'étaient pas touchés par ces réductions de transferts. Or, le rapport d'enquête d'une trentaine de pages conclut exactement le contraire. Les auteurs du rapport observent que la Commission scolaire des Patriotes avait le souci de préserver le plus possible les services aux élèves. Toutefois, au moment où le ministère lui a demandé un plan de redressement, ces services devaient nécessairement être affectés. Par exemple, le service d'aide aux devoirs était relativement peu utilisé par les élèves, et c'était ce que le gouvernement disait. Ainsi, pas question de généraliser aux autres commissions scolaires le choix fait par cet organisme. Et bien, relancé par la presse, le ministre Blais observe que les mesures d'aide particulières aux élèves varient beaucoup d'une commission scolaire à l'autre. Alors, dans ce cas-ci, les dirigeants ont compensé la disparition de l'aide aux devoirs par davantage de récupération scolaire donnée par l'enseignement. La commission scolaire avait adopté un budget déficitaire de 5,5 millions en 2013 et devait produire 3,6 millions d'économies l'année suivante. Coïncidence peut-être, le chef péquiste Pierre-Carl Péladeau avait choisi les coupes en éducation comme thème de sa première question à la reprise des travaux pour l'automne à l'Assemblée nationale et selon lui, au moment où il faudrait stimuler la croissance économique, le Premier ministre a choisi de couper dans ce qu'il y a de plus important dans une collectivité, l'éducation. Or, les nations qui se sont enrichies sont celles qui ont investi en éducation, avait martelé PKP dans un salon bleu où les applaudissements sont désormais proscrits à la période des questions. Tiens, d'ailleurs, parlons-en de ces applaudissements et c'est ce que je vais faire dans quelques secondes. Finalement, avant de vous reparler des applaudissements qu'on ne pourra plus entendre dans le Salon Bleu, j'ai envie de faire un petit arrêt, parce que c'est le zoom de la presse ce matin sur les élections fédérales. Lorsque la campagne s'amuse, par exemple, bon, on l'a ici, et c'est Judith Lachapelle qui signe ce papier-là, on a les quatre portraits des quatre principaux meneurs de parti, Harper, Duceppe, Mulcair et Trudeau. Et en ce qui concerne Stephen Harper, je lis ceci, par exemple. « L'économie canadienne est sur les rails », dit Harper en contemplant des montagnes russes. C'est tiré de d'un c'est une source de syrup, est-ce qu'on dit comme ça, syrup trap, syrup, syrup trap, ok. Donc c'est un journal de la Colombie-Britannique et l'extrait de l'article dit « Le Parti conservateur s'est toujours engagé à construire l'économie, mais il est important de noter que nous sommes ici pour construire une économie amusante. On ne parle pas de l'économie de grand-mère, on parle d'une économie extrême », a-t-il déclaré M. Harper en désignant les montagnes russes. Gilles Duceppe, vu par le navet, ça c'est une... C'est, je ne sais pas où c'est, mais ça vient de Québec. J'ai hâte de faire des recherches. Est-ce que c'est un blog? Est-ce que c'est une revue? Est-ce que c'est en tout cas une petite feuille de chou? Je ne sais pas où, mais qui dit... Gilles Duceppe remplacera Mario Beaulieu à la tête du cortège funéraire du Bloc québécois. Un extrait de l'article. « J'ai compris que pour défendre les intérêts du Québec et mourir dignement, le Bloc a besoin d'un chef rassembleur », a admis Mario Beaulieu. « L'époque de l'attentisme est terminée, les funérailles auront lieu dès octobre, sous la gouverne de M. Duceppe. » Aïe, aïe, aïe. Thomas Mulcair, vu par The Beaverton. Ça, c'est un journal qu'on peut retrouver en Ontario et au Québec, apparemment. En tout cas, c'est une source qu'on peut trouver en Ontario et au Québec. Alors, un extrait de l'article. « Il y a quelques bonnes affaires qui pourraient consolider nos revenus », a déclaré Thomas Mulcair en mettant ses lunettes pour énumérer les rabais sur une variété de produits. « Regardez, on pourrait épargner 55 cents sur chaque cantaloupe chez IGA. Ça veut dire qu'on pourrait épargner beaucoup d'argent à la cafétéria du Parlement. Oh, et puis regardez, il y a des pantalons cargo verts pour seulement 10 $ chacun chez Walmart. Ça nous fera un look militaire du tonnerre. » Commentaire, Mulcair équilibrera son budget avec ses bons de réduction. Et puis Justin Trudeau, vu par, alors ça je ne connais pas non plus, on va aller faire une petite recherche, The Lapine. Qu'on peut trouver en Ontario et en Colombie-Britannique. Extrait de l'article. L'instauration de voies réservées aux vélos sur les autoroutes pour la classe moyenne a été honteusement ignorée par le gouvernement Harper, a dit Justin Trudeau. Encore combien de travailleurs canadiens de la classe moyenne devront être écrasés par une Lexus avant que M. Harper ne commence à faire quelque chose? Et le commentaire, c'était « Trudeau annonce des voies réservées aux vélos sur l'autoroute transcanadienne ». Incroyable mais vrai, dans la presse, on a trouvé quelqu'un pour défendre M. Ferrandez. Et c'est Patrick Lagacé qui le défend et dit « Oui, permettez que je défende le maire Ferrandez, pas qu'il soit sans défaut, mais il est médiatiquement sans allié. » C'est formidable de parler du maire Ferrandez, mais il faudrait aussi peut-être écouter ce qu'il dit. Et ce qu'il dit, c'est que permettre l'étalement urbain en laissant chaque kilomètre carré de terre arable du 450 se faire transformer en mer à condos et à bungalows, Québec permet ça, tout en faisant accroire au monde que Montréal, c'est pas loin et c'est à une demi-heure en auto, le discours des promoteurs, c'est malhonnête et c'est con, dit Lagacé. Ce qu'il dit, c'est que son quartier reçoit un tsunami de chars, en partie à cause de cet étalement urbain facilité par tout le monde depuis toujours. 500 000 voitures passent par le plateau chaque jour. Il dit que le parc automobile québécois ne cesse de grossir. Ce qu'il dit, Ferrandez, c'est qu'une rue typique de banlieue peut voir passer 200 voitures par jour, alors que dans son plateau, c'est 1 500 à 2 000 par jour. « Oui, je sais, dit Lagacé, vous lui dites qu'un seul arrondissement ne peut pas agir seul, qu'il ne peut pas changer le grand ordre des choses sans concertation, que ce n'est pas lui, Ferrandez, qui va empêcher les gens d'acheter des terrains à Mirabel tout en ayant un job à Montréal. » Et c'est vrai, il ne peut pas changer le grand ordre des choses. Il a décidé de changer les choses à son échelle, dit Lagacé, dans son quartier, dans son petit coin du monde. C'est plus efficace qu'un statut Facebook contre le pétrole sale de l'Alberta, je trouve. Je sais que les commerçants du plateau souffrent ces jours-ci et qu'ils hurlent contre le maire Ferrandez, mais le commerce au détail souffre en général, parce que les loyers sont astronomiques, ce qui ouvre la voie aux grandes enseignes et exclut les petits commerçants, parce que l'Internet, parce que le 10-30, parce que l'économie. Il y a plein de facteurs. Il a 1 million de défauts, je sais, Ferrandez, et vous êtes 1 million à le souligner jusqu'à Amqui. Je ne le nie pas, ses défauts. Il pourrait être moins rugueux, reculer un peu, des fois. Mais je peux vous dire que Ferrandez, réélu avec plus de 50% des voix en 2013, fait tenir son engagement politique sur une idée. La ville appartient aux gens, pas aux chars. Ça me plaît, cette idée-là. C'est en partie pourquoi j'ai décidé de revenir vivre dans ce coin agité du globe, qu'est le plateau Mont-Royal l'été dernier. Je dois aimer le chaos, conclut Patrick Lagacé. La caricature de Serge Chapleau ce matin concerne la bâtonnière du Québec qui, dit-il, lance la serviette. Alors on la voit tout sourire en train de lancer, mais non pas une serviette, un jean. Il sera question tout à l'heure à l'émission, évidemment, de Madame la bâtonnière qui, finalement, a décidé de quitter son poste, de démissionner, mais, dit-elle, pour mieux y revenir. J'ai entendu une entrevue ce matin avec cette femme. C'est assez confondant. On finit par plus savoir qui dit la vérité. Moi, honnêtement, j'ai encore un petit doute. Parce que lorsqu'elle dit, par exemple, je vais éviter de faire à d'autres ce qu'on m'a fait, elle le dit parce que, pour ne pas le nommer, c'est M. Gravel qui lui a posé la question, mais est-ce que vous savez qui vous a mis dans le pétrin? Et elle dit, j'ai des informations, mais je veux les vérifier avant de faire une sortie quelconque. Je ne veux pas, justement, faire subir à quelqu'un ce qu'on m'a fait subir à moi-même. En tout cas, je ne sais pas, mais j'ai encore un petit doute. En attendant, j'accueille tout de suite mon ami Dominique Meillet. Bonjour Dominique, je suis ravie de vous retrouver. Toujours
aussi,
fidèle collaboratrice, toujours.
Je suis très contente de participer à la nouvelle émission.
Oui.
Voilà, que je trouve vraiment beaucoup plus vivante, très agréable.
Ah,
non,
c'est
j'ai
gentil.
Écouté ça à la maison et
oui.
J'étais vraiment... je ne sais pas si vous avez déjà des retours, mais...
J'en ai quelques-uns, justement, comme vous, comme voilà. D'autres personnes qui nous ont fait voilà. Savoir par courriel ou par téléphone. D'ailleurs, j'invite, et vous me tendez une perche, Dominique, je vous invite, vous qui êtes à notre écoute de Canal M en général, et plus spécifiquement ce matin de cette émission, les voix de service, à nous faire part de vos commentaires. Vous savez, on veut toujours s'améliorer. Il y a peut-être encore des choses qu'on peut aménager, qu'on peut améliorer. On vient juste de commencer. J'aime pas cette expression, mais quand même, c'est un work in progress, comme on dit. Alors, le principal étant, comme je vous le dis souvent, qu'on vous informe aussi, qu'on vous distrait un peu. Et c'est un mélange de tout ça avec toutes ces personnes qui viennent collaborer avec moi tous les matins. Alors, pour nous contacter, c'est facile. On passe par le site internet qui est simplement www.vuesetvoix.com. À partir de là, vous tombez directement sur la radio. Si vous n'êtes pas en mesure, parce que vous avez des difficultés visuelles, de le faire vous-même, peut-être connaissez-vous quelqu'un qui pourrait vous donner un coup de main si vous avez envie de nous donner une tape dans le dos ou encore une petite tape sur les mains en disant « Attention, ça, j'aime pas ça ». N'hésitez pas à le faire, ça nous fera plaisir. Dominique, de quoi nous parlez-vous ?
Parce que vous, j'ai... Moi, ça dépend un petit peu du temps qui me reste, mais j'aimerais parler de l'héroïsme de devenir maman ou pas. Et puis le mystère du noir sous blanc, qui est un petit sujet mode que j'ai trouvé très drôle.
Alors, voilà. Je voudrais préciser que lorsque j'ai demandé à tous ces collaborateurs quels sont vos sujets de prédilection, c'est parce que je voulais que vous vous sentiez bien dans ce dont vous alliez nous parler. Alors, et vous m'avez dit, mais j'ai à peu près 15 choses, tout m'intéresse.
Oui, moi, tout m'intéresse, c'est la façon dont c'est dit. plutôt, j'aime bien les sujets, enfin... quand c'est traité d'une façon un petit peu humoristique, disons. Voilà.
On adore ça.
Voilà.
Alors, nous sommes dans quelle revue ?
Alors, dans Châtelaine, du mois d'octobre 2015. Et le sujet, c'est « Les mères ne sont pas des héroïnes ». Du plus loin que je me souvienne, j'ai voulu des enfants. Plus qu'une certitude, c'était une envie profonde, un vœu ardent. Même jeune, j'étais consciente que ce désir pourrait ne jamais se concrétiser. Car y aspirer, y est une chose, y arriver relève plutôt de la loterie. Quand en plus, on peut se permettre de récidiver et au moment voulu, j'appelle ça le gros luxe. Je me sens donc hyper privilégiée d'être maman. Privilégiée parce que c'est ce que je souhaitais. Mais mon extase s'arrête là. Jamais je n'ai pensé que ce statut me conférait une supériorité quelconque, ni que c'était le seul choix valable. Pourtant, en devenant mère, j'ai intégré à mon insu un club élite. Celui des femmes complètes qui ont trouvé la clé du vrai bonheur et qui ne sont pas des égoïstes. Que non, elles ont vaillamment accepté de voir leur corps passer au rotoculteur de l'accouchement, de louer leur poitrine à un petit parasite assoiffé des mois durant, de se lever 20 fois par nuit, d'essuyer du vomi et des nez morveux, de consoler, écouter, éduquer, rassurer. Tout ça 24 heures sur 24 pendant des années sans beaucoup de possibilités de répit. Ben voyons, personne ne fait des bébés par dévouement ou pour le plaisir de se payer un stage à vie au pays de l'abnégation. C'est ce qui vient avec, ce sont les effets secondaires d'une envie beaucoup plus grande, connaître un amour absolu, guider un petit être, vivre des bonheurs quotidiens avec lui, le voir grandir. Toutes des raisons plutôt égoïstes à mes yeux et surtout très personnelles. J'ai mis un moment à me rendre compte que je faisais partie du cercle des héroïnes qui ont fait le bon choix. On ne m'a pas envoyé un badge et une lettre de félicitations le jour où mon chum a coupé le cordon ombilical. C'est en passant le cap de la mi-trentaine, l'an dernier, que cette réalité m'a sauté au visage. Soudainement, le fait que j'ai ou non une progéniture avait grimpé de 3 échelons dans l'intérêt public.
Ah oui.
Comme si, à partir de 35 ans, les filles devaient rendre des comptes sur leur fertilité.
C'est fou, mais c'est tellement ça.
Ben oui.
C'est tellement ça.
Maintenant, la question « As-tu des enfants ?» arrive parfois avant « Que fais-tu dans la vie ?»
Oui. Ça m'arrive tout le temps. Et je dis toujours, d'ailleurs, je précise toujours qu'il y a plusieurs questions que je ne veux pas qu'on me pose. Celle-ci, as-tu des enfants ? Combien tu pèses ? Quel âge as-tu ? Et combien tu joues au golf ? Ça, là, mais et vous pouvez être sûr que c'est ce qui arrive en premier avant. Es-tu heureuse, par exemple ?
Voilà. Et pour mes amis qui répondent par la négative, elle est toujours suivie de « en veux-tu ? »
Ah oui.
Mettons une chose au clair. Les trentenaires sans enfants se divisent en 3 catégories. Celles qui remettent ça à plus tard et n'en peuvent plus de se faire demander leur plan quinquennal de reproduction. Celles qui en voudraient, mais ne le peuvent pas et pour qui le sujet est souvent douloureux. Et celles qui n'en veulent pas et en ont ras-le-bol de passer pour des monstres d'égoïsme ou des carriéristes. On s'entend qu'aucune n'a envie de se justifier devant une personne qu'elle ne connaissait pas il y a 5 minutes. De la même manière, je ne comprends pas les sourires approbateurs qu'on me décroche lorsque je réponds que j'ai 2 petits, ni les airs de connivence des autres mères lorsqu'elles découvrent que je suis une des leurs.
Oui.
Bien sûr, nous partageons certaines expériences, nous passons par des étapes inévitables. C'est sympa d'échanger sur la dernière perle de Junior, mais là s'arrête notre zone commune. Il y a autant de façons de vivre sa maternité qu'il y a d'êtres humains. Et autant de voies vers le bonheur et la plénitude qui n'impliquent pas d'expulser un placenta. C'est une question à choix multiples qui ne comporte pas de bonne réponse, sinon celle qui nous convient. Et c'était un texte par Christelle Crépeau.
Là, vous nous arrivez aussi avec quelque chose que...
Oui, une très bonne nouvelle,
ouais, c'est fantastique,
pour
ça.
Les enfants, mais aussi peut-être pour les grands. C'est dans le Huffington Post, je ne sais, j'ai pas la date exactement, mais d'août 2015. Une prothèse de main imprimée en 3D, ah ouais, remise à un enfant. Maxence, à 6 ans, est né sans main droite. Il doit devenir, ce lundi 17 août, le premier enfant français équipé d'une prothèse imprimée en 3D. Technologie peu coûteuse et ludique pour les enfants nés avec une malformation d'un membre. Ce n'est absolument pas médical. Il ne va pas subir de greffe ni d'opération. La prothèse sera scratchée et il pourra l'enlever à sa guise. C'est sa maman qui explique,
ouais,
ça.
Ouais, ouais, ouais.
Depuis que Maxence est né, on a fait le choix de ne pas l'appareiller avec une prothèse médicalisée. Là, il va avoir une main colorée aux couleurs de son choix, de super-héros, qu'il pourra enlever à sa guise. Ce sera ludique pour lui dans la cour de récré avec les copains, poursuit sa maman.
Oui, c'est sûr.
Grâce à la technologie d'impression en 3D, ce type de prothèse ne coûte que 50 à 200 euros. Donc, je ne sais pas combien ça fait.
Bon, c'est à peu près 300 $ maximum.
Oui, donc selon la taille de la main. Si l'enfant la casse ou la perd, elle est donc facile à remplacer. Depuis 2013, nous avons livré environ 2000 mains dans 37 pays, surtout pour les enfants, mais aussi pour des adultes amputés dans des pays en voie de développement, explique John Schul, créateur d'Enable, qui est la société qui les fait, précise, il a précisé que Google a remis à l'association un prix de $600,000 l'an dernier pour féliciter sa mission. Voilà. Et les mains, c'est vrai que c'est très ludique.
Mais oui.
C'est dans des couleurs rose, vert, bleu. Enfin.
Mais est-ce qu'ils peuvent les utiliser un peu?
Oui, oui,
quand
bien
même.
Sûr,
ah oui, ok,
bien
d'accord.
Sûr,
ils peuvent, elles sont, comment
elles
on dit,
sont mobiles.
Mobiles, c'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait, les doigts sont mobiles.
Okay. Et c'est vrai que là, je vois des couleurs rose et noir, rose
oui,
et
vert. Oui, ils peuvent choisir un petit peu ce qu'ils veulent, en fait. Voilà. Alors, le mystère du noir sous blanc, c'est par Karine Bizet dans M, le magazine du Monde.
M sous blanc.
Le noir sous blanc.
C'est-à-dire pourquoi quand on porte... Attendez.
Du noir,
oui,
qui est sous le blanc.
Ok.
Tu vois, la transparence,
oui,
du,
oui,
blanc,
oui,
tu,
oui,
vois,
oui,
le noir.
Oui, oui.
Voilà.
Et pourquoi c'est mystérieux?
Eh bien voilà, je vais te dire pourquoi.
D'accord.
De loin, on dirait une tache sur une chemise blanche. De près, on constate que le problème est localisé en dessous de la surface. D'ailleurs, c'est un problème de dessous.
Ouais.
Vous venez de croiser le 7e soutien-gorge noir sous chemise blanche de la journée. À ce jeu-là, on ne gagne rien. Juste une interrogation. Pourquoi? Il y a en 2015 suffisamment de boutiques de lingerie à tous les prix pour éviter cette cacophonie, de la distraction à la fainéantise en passant par la panne de machine à laver.
Oui, mais enfin, de vous à moi, il y a maintenant, on met n'importe quelle couleur avec
les
n'importe laquelle.
Les réponses sont multiples,
voilà.
Clotilde.
Ah oui,
le résultat
enfin.
Reste le même, tout est en vitrine. Et assez vite, on divise les adeptes de cette superposition ratée en deux catégories.
Bon.
La plus évidente d'abord, les professionnels de ce que les anglo-saxons nomment « oversharing », soit la tendance compulsive à partager avec le reste du monde des informations très privées. L'essor des réseaux sociaux a donné à ces filles une plateforme idéale. La partageuse compulsive change ainsi son statut Facebook plusieurs fois par jour. Tant pis si sa mère, qui est aussi sur Facebook, vient de lire « L'épilation brésilienne, c'est top ». Mais attention à la repousse. Imagée, mais pas aussi poétique que la photo Instagram de l'heure qui suit, les bandes de cire couvertes de poils arrachées chez l'esthéticienne avec une ribambelle d'émojis en dessous qui font des clins d'œil. Évidemment, cette jeune personne rêve de faire de la télé-réalité et sa tenue publicitaire prouve qu'elle est toujours prête à l'éventualité d'un casting sauvage. La seconde catégorie est plus complexe à cerner. On pourrait la considérer comme une forme de publicité mensongère, mais c'est plus subtil que cela. Pour la repérer, il faut bien l'observer. L'intégralité de sa silhouette est monochrome. En fait, l'intégralité de sa garde-robe est monochrome.
Ah oui.
Ce dessous et dessus est un effet de style radical. Cette personne travaille dans la mode et passe beaucoup de temps à s'occuper de son apparence. Outre l'achat de toutes ses pièces noires et blanches parfaitement repassées, elle fabrique des jus verts avec son mixeur high-tech. Elle est abonnée à la newsletter de Goop, le site de Gwyneth Paltrow, je crois qu'on en a beaucoup parlé aussi, et fait venir ses cosmétiques de Suisse, classés ensuite par ordre d'utilisation dans un frigo immaculé. Ses amis de la mode, 40% de filles, 60% de gays, lui disent adorer son look si Bauhaus. Cela est une façon élégante de cultiver, de dire anti-sexy. Dans aucun de ces cas, on ne vous regarde dans les yeux. La solution, apprendre à cacher son jeu en révisant ses cours de petite section de maternelle. Oui, c'est là qu'on a appris à coordonner des couleurs avec des cubes.
Mais oui, mais enfin bon, enfin, ça, on le sait hein, que... Oh, moi, ça peut m'arriver à l'occasion. Je te dis, mais oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, aujourd'hui, on est...
Ben oui.
Hein? Allez. Tiens, j'ai une petite dernière heure pour vous. Piqué-Souban va faire un don de 10 millions pour les enfants. Ça, c'est, je trouve ça intelligent quand des gens qui sont pleins de fric, tout d'un coup, en font quelque chose. Merci, mais Dominique.
Oui. Merci, Clotilde.
Je vous retrouve mercredi de la semaine prochaine ou...
Pas la semaine prochaine, celle d'après.
Bonjour à vous tous, ici Kevin Breton. Et si je ris en ce moment, c'est que je ne trouvais plus mon micro avant d'entrer en onde. Il était perché tout haut et il a fallu que Mathieu à la régie vienne l'abaisser pour moi parce que je le voyais plus. Et puis là, tout d'un coup, je comprenais plus comment ça fonctionnait la radio. Je me disais, je peux pas juste parler dans le vide comme ça. J'ai besoin d'un instrument de travail. Enfin, bon. je suis là, Kevin Breton, pour vous parler des sports. Clotilde Sey m'a un peu couper l'herbe sous le pied en quittant, en donnant la plus grosse nouvelle de la journée dans l'univers sportif aujourd'hui. En fait, c'est ce don substantiel de Piqué-Souban pour l'hôpital pour enfants de Montréal. Tout juste avant d'entrer en onde, là, je suivais la conférence de presse qui avait lieu ce matin à 10h. Je suivais ça via la page Twitter de l'hôpital pour enfants de Montréal. On dit sur le rds.ca aujourd'hui, depuis son arrivée à Montréal, Piqué-Souban n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour aider son prochain. particulièrement par son implication auprès des jeunes. Il semble que le numéro 76 du Canadien fera de nouveau la preuve de sa grande générosité mercredi en offrant un don substantiel à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Donc, plusieurs sources, dont la chaîne Global Montréal, ont rapporté ce matin que Subban va verser une somme généreuse de 10 millions de dollars étalée sur une période de 7 ans. Et le défenseur de 26 ans siégera désormais aussi au sein du conseil d'administration de la Fondation. Par ailleurs, un vaste espace nommé l'Atrium Piquet-Souben sera inauguré au sein de l'établissement. L'annonce officielle a été faite ce matin à 10 heures et c'est à noter que Piquet-Souben a parlé en français pendant son discours. Hein. Les cours de français de Piquet-Souben vont de bon train visiblement. Toujours dans le domaine du sport, Simon Gagné a annoncé hier sa retraite, c'est ce qu'il a confirmé, ce qui était en fait un secret de polichinelle depuis quelques mois déjà. Il dit en entrevue avec Stéphane Cadorette du Journal de Québec, « C'est une décision longuement réfléchie, même si le mot « retraite » demeure dur à prononcer. » Après une carrière de 14 ans dans la Ligue nationale de hockey avec les Flyers de Philadelphie, le Lightning de Tampa Bay, les Kings de Los Angeles et les Bruins de Boston, l'idée de la retraite cheminait depuis des mois dans sa tête, alors que Simon Gagné a quitté les Bruins après 23 matchs la saison dernière pour se retrouver au chevet de son père atteint du cancer. Celui-ci est décédé le 26 décembre et les deux complices ont eu une franche discussion deux jours auparavant. Il dit « Pour moi, tout est devenu clair ». A résumé celui qui a amassé 601 points en 822 matchs et qui a aussi aidé le Canada à remporter l'or olympique en 2002, à l'âge seulement de 21 ans. Si Gagné éprouve un seul regret, c'est de ne pas avoir pu réaliser son rêve de porter l'uniforme des Nordiques. J'ai rêvé qu'ils reviennent, mais je vais peut-être les rater d'une couple d'années, a-t-il affirmé. Je demeure convaincu qu'ils vont revenir. Il poursuit en disant « Ce serait une façon de réaliser mon rêve que de travailler un jour pour l'organisation. » Pour l'instant, je vais laisser passer ce moment et me concentrer sur ma famille, a-t-il confié. Simon Gagné a remporté la Coupe Stanley en 2012 avec les Kings de Los Angeles. Il était accompagné de son épouse Karine et de ses trois enfants Matthew, Lily Rose et Juliette lors de son point de presse. Maintenant, au football de la NFL, un texte de Stéphane Cadorette dans le Journal de Montréal de ce matin. Peyton Manning en arrache. Les Broncos ont beau avoir remporté leur premier match, les partisans ne semblent pas rassasiés pour autant. La performance de Peyton Manning a encore une fois laissé bien des amateurs sur leur appétit. La commande de dimanche dernier contre les Ravens n'avait pourtant rien de facile, tout comme celle de demain soir, d'ailleurs, contre les Chiefs, dans la mer Rouge de Kansas City. Mais peu importe l'ampleur de la tâche et les résultats au bout du compte, les amateurs ont pris goût à voir Manning dépecer les défensives adverses avec une précision chirurgicale. La défensive joue formidablement bien contre les Ravens? Oui. Mais Manning n'a lancé que pour 175 verges. Le vétéran secondaire DeMarcus Ware avait des ailes? Oui. Mais Manning s'est fait intercepter. Bref, on se croirait dans un monde où le fantasy football prime sur la colonne des victoires et des défaites. Soyons quand même bons princes à l'égard des rois des poules en les secondant sur le fait que la récente production de Manning suggère un déclin. En fin de saison dernière, la série de 51 matchs de la saison régulière avec au moins une passe de toucher de Manning a pris fin. C'est donc dire que c'est pas une... Que pas une seule fois en trois saisons et des poussières, le grand numéro 18 n'avait été blanchi. Dimanche dernier marquait pourtant la troisième fois à ces matchs que Manning ne trouvait personne dans la zone début. À ses six derniers matchs, y compris la gênante défaite en série contre les Colts, Manning n'a décroché que quatre passes de toucher. Pour n'importe quel autre corps arrière, c'est une mauvaise séquence. Pour Manning, c'est le néant absolu, décrit Stéphane Cadorette. En effet, il s'agissait seulement de la troisième victoire de Manning depuis 2008, dans un match où il ne lançait pas de passe de toucher. Comme quoi, les Broncos ont sans doute bien travaillé autour de lui. Les Ravens ont limité l'attaque à 3,2 verges par jeu en première demi, le plus bas total pour Denver depuis l'arrivée de Manning en 2012. Il a été plus harcelé avec quatre sacs, un total que les Broncos n'avaient pas concédé depuis décembre 2013. Est-ce qu'il faut conclure que Manning est fini et que les Broncos sont en déroute? Pas forcément. Peut-être cependant que son rôle est appelé à diminuer au cœur d'une attaque au sol bien rodé et d'une défensive punitive. Contre les Chiefs, Manning a connu infiniment de succès, avec une fiche immaculée de 6 victoires et aucune défaite. Les Broncos ont gagné leurs 12 derniers duels de division sur la route. Cela dit, la défensive des Chiefs est redoutable et Manning aura bien souvent messieurs Houston et Halley qui souffleront dans son cou. L'attaque demeure en construction, mais la solution est possible. Et en terminant, je vais vous lire une entrevue très intéressante dans le Journal de Montréal de Pierre Durocher d'aujourd'hui dans la section basketball. Le titre, Joël Anthony, une inspiration pour les jeunes. On dit que le vétéran de la NBA est fier de ses racines montréalaises et qu'il le démontre. Avant d'amorcer sa 9e saison chez les pros, Joël Anthony est retourné à ses racines passant le dernier week-end à Montréal. Le centre des Pistons de Détroit a participé dimanche à l'école secondaire Lucien Pagé à un événement organisé par la banque en ligne Tangerine pour promouvoir l'activité physique dans nos établissements scolaires. Les 125 joueurs de basketball invités étaient tout oreilles lorsque Anthony s'est adressé à eux après avoir pris part à des ateliers à leur côté. L'ex-coéquipier de Shaquille O'Neal, de LeBron James et de Dwayne Wade, avec le Heat de Miami, leur a refilé de bons trucs non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan du développement personnel. L'événement Gym communautaire de Tangerine se tenait pour la première fois au Québec. Steve Nash y participe dans les autres provinces. Il était donc logique de demander à un Montréalais d'être le porte-parole de la campagne « Participer au changement », qui a pour but de développer la confiance en soi et l'optimisme chez les jeunes. Anthony, qui s'est adressé en français et en anglais aux élèves, a accordé une entrevue au Journal de Montréal avant de retourner à Détroit pour parfaire sa préparation en vue du camp d'entraînement des Pistons. Je ne vous lirai pas chacune des questions qui ont été posées, mais j'ai retenu les plus intéressantes. La première question, pourquoi as-tu accepté de participer à un tel événement communautaire? Et sa réponse, j'aurais bien aimé pouvoir bénéficier d'un tel programme constructif et d'avoir la chance de rencontrer un joueur de la NBA lorsque j'étais adolescent et que je jouais au basketball à Montréal. Je me sens privilégié d'être un joueur professionnel qui gagne bien sa vie et il est important de redonner quelque chose à la société. Les jeunes ont besoin d'aide, de motivation. Il faut leur donner des raisons de sourire, de voir la vie avec optimisme. As-tu toujours cru que tu avais les talents nécessaires pour jouer régulièrement dans la NBA? Non, je partais de très loin, a-t-il répondu. Aux yeux des Américains, j'étais un Canadien originaire de Montréal, une ville où le hockey est très populaire. Je n'ai pas été repêché par une équipe de la NBA et il a fallu que je travaille fort pour me faire une place avec le Heat de Miami. De jouer dans la NBA était quelque chose de surréel pour moi. Il termine en disant « J'espère jouer pendant quelques années encore, si je peux rester en santé. Ça fait drôle de penser que je suis déjà un vétéran dans la NBA à l'âge de 33 ans seulement. Il me semble que le temps a passé très vite. C'est à mon tour maintenant de servir d'exemple aux jeunes joueurs de basketball au Québec, au Canada. » Effectivement, c'est une très belle initiative. Des bonnes nouvelles dans le domaine du sport. Piqué Subban et Anthony qui vient aussi faire une conférence à Montréal, alors que j'accueille mes collègues Clotilde Seille et aussi Christiane Campagne en studio. Bonjour, mesdames.
Bonjour, Kevin. Mais tu fais tellement bien ça. Je pense qu'on va s'en aller. Nous autres, on va le laisser.
Non, parce que j'ai plus de nouvelles. Ça va mal.
Merci.
Tu m'as pas vu tantôt. J'avais un problème avec le micro.
Merci beaucoup, Kevin. Rebonjour Christiane Campagna.
Bonjour.
Je suis ravie que vous soyez à nouveau des nôtres. C'est un sujet assez facebookien que vous nous proposez maintenant.
Oui, mais bien qu'il y en a eu des échos sur Twitter hier, parce que bon, il y avait cette nouvelle voulant que Facebook confirme qu'il y aura un bouton « Je n'aime pas ». Ce qui avait fait dire à Nicolas Boisvert qu'il connaît des animateurs de radio qui vont faire exploser les serveurs de Facebook en moins de 24 heures. C'est pas nous.
Non, pas nous. Mais bon, alors, à quoi ça ressemble, ce... C'est quoi le sigle de ce « je n'aime pas »
Ce serait le pouce par en bas, mais en fait, ça, c'est pas clair, parce que
les différents journalistes techno n'interprètent pas de la même façon la réponse qu'a fait Mark Zuckerberg hier à la... Chaque fois qu'il fait des séances de questions-réponses, on lui pose cette question-là. Bon. Y aurait-il un jour un bouton « je n'aime pas » Parce que quand on partage des nouvelles, parfois les gens sont mal à l'aise. Le bouton « j'aime » sert aussi à donner une tape dans le dos. Et quand la personne nous donne une mauvaise nouvelle ou partage une nouvelle triste, on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Alors, Laurent Lassalle de branchez-vous.com a titré « Zuckerberg confirme que Facebook aura une mention « je n'aime pas ». Et le modérateur.com, un autre blog techno que je suis, a titré « Non, il n'y aura pas de bouton dislike sur Facebook ». Mais les deux citent les mêmes extraits de la conférence d'hier. Alors, Laurent Lassalle dit « Dans le cadre d'une séance de questions-réponses, Mark Zuckerberg a confirmé que Facebook travaillait à l'implantation d'un bouton dislike. Les gens nous demandent un bouton dislike depuis des années, a-t-il dit. Nous avons enfin entendu et nous travaillons sur cette question et allons livrer quelque chose qui répond aux besoins de la communauté ». Zuckerberg a expliqué que la raison pour laquelle Facebook a tardé à se pencher sur une telle intégration était la crainte d'adopter un système à la Reddit où les utilisateurs promeuvent et rétrogradent les contenus. C'est un autre réseau social, Reddit. Et c'était avant de comprendre que la raison pour laquelle la communauté souhaitait une telle offre était pour avoir le choix d'exprimer un autre sentiment que l'appréciation.
OK. Et vous appelez bien ça un dislike en anglais, c'est
oui.
OK, d'accord.
Oui, c'est le contraire de like.
Ben oui, c'est ça. Mais like, dislike, en tout cas. Parce que vous savez, moi, mon anglais est tellement rudimentaire, vous le savez, Christiane, que dis, je ne sais pas, vous aurez peut-être dit no like. Ou...
Unlike, mais unlike, il faudrait avoir liké avant. Ah. C'est désaimer, si on veut.
OK, je comprends. Ah, ça m'intéresse.
Laurent Lassalle donne comme exemple, lors de partage d'articles liés à la récente crise des réfugiés syriens ou un statut concernant la mort d'un proche, il est plutôt inapproprié d'aimer ce genre de contenu. Pourtant, pour l'instant, du moins, c'est la seule option autre que commenter. Alors, ce que Zuckerberg a dit, ce qu'ils veulent, c'est surtout avoir la capacité d'exprimer de l'empathie. Et c'est ce qui fait dire au modérateur.com que il n'y aura pas un bouton dislike. Selon lui, à ce moment-là, Mark Zuckerberg a nuancé ses propos et tiré un trait sur l'intégration d'un bouton dislike. Ouais, ouais. Selon lui, il dit qu'ils vont plutôt amener une façon de nuancer et de donner de l'empathie. Alors, même conférence de presse, deux interprétations.
Oui, exactement. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi juste un like? Moi, c'est vrai que ça me semblait, moi qui ne suis pas très Facebook, je me suis dit, mais pourquoi il y a juste un like? Ou pourquoi il n'y a pas le contraire, quoi? C'est-à-dire, ce ne serait pas étonnant que ça arrive, non?
Bien, ça, ce serait Vincent Manilev sur slide.fr qui aurait la réponse à votre question. Ah. Parce qu'il dit que Facebook a de toute façon toujours refusé tout ce qui n'était pas positif. Ah! Par peur des messages haineux, mais aussi parce qu'il faut absolument proposer aux annonceurs un espace neutre. Mmh. Alors, selon lui, il suffit de se pencher sur une autre séance de questions-réponses donnée en décembre 2014 pour s'apercevoir que le bouton « je n'aime pas » ne servira pas à exprimer la désapprobation ou tout autre sentiment négatif. Nous devons trouver la façon de faire pour qu'il devienne une force du bien, pas une force pour la méchanceté ou pour abaisser les publications que les gens postent. Ce qui n'est pas mauvais parce que les trolls qui sont fréquents dans les médias sociaux. Et selon cet auteur, toujours Zuckerberg hier a confirmé cette position-là en affirmant que les gens veulent avant tout exprimer de l'empathie. Mais lui, il dit que... Il trouve que les gens, justement, se sont habitués à ce que ce « j'aime-là » ait différentes significations. Mm-hmm. Les gens y apportent ses propres nuances. Et lui, ce qu'il craint, c'est qu'en dédoublant les possibilités d'interaction avec un statut ou un partage de liens, que Facebook veuille avant tout promouvoir la compassion et sauver ce qui reste de positivisme sur Internet, quitte à tuer la liberté d'interprétation que chacun avait autour des « j'aime » qu'ils reçoivent et envoient. Lui, l'ambiguïté du terme « il aime ça ».
Ah, OK. OK, bon, ben écoutez, merci beaucoup. C'est en tout cas, plaisir. Moi, j'aime ce que vous avez fait là. J'aime, il n'y a aucun problème là-dessus. Je l'ai eu, généralement, j'interviens toujours trop tôt et je ne laisse jamais à notre jingle qui nous amène vers les régions le soin de se terminer adéquatement. Je commence par le droit ce matin où Pierre Jury signe un éditorial qui concerne les Jeux olympiques à Toronto. Peut-être en avez-vous entendu parler, mais finalement, Tory, le maire de Toronto, a dit non. Il a décidé de ne pas entrer dans la course pour obtenir les Jeux olympiques de 2024. Ce à quoi Pierre Jury dit bravo. Il n'y avait pas suffisamment d'appétit en ce sens, tant à Toronto qu'en Ontario et au Canada tout entier, pour courir après un tel rêve sportif, dit M. Jury. Un jour, Toronto sera un site merveilleux pour les Olympiques, a soutenu le maire John Tory. Mais pas à ce moment-ci. L'aventure olympique est longue, sinueuse et surtout bien incertaine. Défendre une candidature auprès du Comité international olympique aurait coûté entre 50 et 75 millions de dollars, sans aucune garantie de succès. Bien que le CIO le nie, l'alternance entre les continents joue un rôle. L'Europe ne peut toujours gagner. L'Asie pose un problème pour les réseaux de télévision américains qui paient le gros prix pour obtenir les droits de retransmission. Pour des compétitions qui se déroulent en pleine nuit, pour leurs téléspectateurs. Mais en plus, c'est vrai. L'Amérique aura les JO de 2016 à Rio de Janeiro, au Brésil. L'Europe a eu ceux de 2012 à Londres. L'Asie aura ceux de 2020 à Tokyo. Les enchères seront donc ouvertes pour 2024. Ce pourrait être un retour vers l'Europe, car cela fera alors 3 Olympiades que les JO de Londres auront eu lieu. Et puis Toronto a bien raté 2 autres essais pour ceux de 1996 remportés par Atlanta et de 2008 gagnés par Beijing. Mais ça fait longtemps. Une candidature à tous les 15 ans, les membres votants ont un peu tendance à oublier. Toronto aurait gaspillé beaucoup de fric à courir après un titre furtif. John Tory fait bien de se concentrer ailleurs pendant ce mandat. Conclut là-dessus Pierre Jury. Et puis Mylène Moisan dans Le Soleil ce matin nous propose quelques petits retours en arrière. Par exemple, Liam. Liam a eu 3 ans. Elle a demandé à Yann Desfossés des nouvelles de son fils, Liam, qui reconnaît une 30aine de mots, qui s'exprime de mieux en mieux, qui arrive à lever les bras. Il a aussi, nous dit Mylène Moisan, moi je vous avais lu ce papier-là sur le petit Liam, il a aussi recommencé à faire des grimaces. Ça a l'air niaiseux, mais pour grimacer, il faut du muscle dans la langue et Liam en avait de moins en moins, tellement qu'il n'arrivait plus à la sortir de sa bouche. Il est né avec une maladie, l'amyotrophie spinale de type 1, la pire, et les médecins ne lui donnaient pas 2 ans à vivre. Eh bien, Liam a fêté ses 3 ans, il y a 3 jours, et il y avait un super-héros sur son gâteau. Je vous avais raconté son histoire en mai 2014. Liam avait été exclu des essais pour un traitement parce qu'il était né 17 jours trop tard. Que je me souviens bien de cela. Eh bien, ses parents ont réussi à trouver la recette de la fameuse molécule. Ils l'ont fait fabriquer à leurs frais, dans un labo. Ils l'ont fait tester sur des cochons, dans une faculté de médecine vétérinaire. Liam en prend depuis février. Et depuis, il continue à faire des pieds de nez à la médecine. Waouh! Et puis, le temps qui passe, ça fera 2 ans le 2 novembre. C'était la fête d'Étienne Gourde. Il venait d'avoir 28 ans, il retournait tranquillement chez lui. Rue du Court-Métrage à Loretteville, une voiture l'a fauché. Il est mort, nous raconte Mylène Moisan. Le conducteur ou la conductrice a quitté les lieux, probablement en regardant partout autour. Et il ou elle n'a vu personne. La police n'a pas d'indice. Pas de témoin direct, juste un gars qui dit avoir aperçu un VUS, un jus foncé. Depuis presque 2 ans déjà, le conducteur ou la conductrice se dit que plus le temps passe, moins il ou elle a des chances de se faire coincer. Chaque jour qui passe est un jour où il ou elle peut continuer à cacher la vérité. Pour les parents et les proches d'Étienne, c'est un jour de plus sans la connaître. Dans le soleil encore, touché par le sort des réfugiés syriens, le président du groupe Norplex, Yves Doyon, offre l'ancien couvent des Sœurs de Saint-François d'Assise à Charlebourg pour y accueillir quelques 200 migrants. Ce serait un lieu de transition pour parer aux urgences et sauver la vie de ces pauvres gens, a déclaré Yves Doyon. À tous les soirs, on voit ces horreurs-là et nous, on a la chance d'être dans une ville où on vit confortablement. Je me suis dit qu'on avait un édifice qui était déjà prêt sur un grand terrain et qui n'est pas occupé depuis 2 ans et demi. Le bâtiment de 200 000 pieds carrés est situé sur un terrain de 300 000 pieds carrés et comprend déjà une cuisine équipée, un théâtre, une chapelle et plusieurs chambres et salles de bain. Alors bien sûr, il y a du ménage à faire, il faut l'équiper, il faut le mettre à jour, ça prend des lits, du mobilier et différents accessoires. C'est pourquoi il est important que les politiciens, les gens d'affaires et les citoyens se mobilisent. Il faut mettre l'épaule à la roue et créer rapidement un centre de coordination à Québec, poursuit M. Doyon. Et pendant ce temps-là, la ville de Québec travaille à un plan pour faciliter l'accueil de réfugiés dans la capitale. Nous allons en donner tous les détails la semaine prochaine, a dit le maire Régis Labeaume en marge d'une conférence de presse. On saura alors la semaine prochaine, a dit M. Labeaume, combien on peut en recevoir, sur combien de temps et combien ça va coûter. Ce n'est jamais facile d'accueillir 200 migrants. C'est un univers que je découvre. Imaginez en Allemagne, ils vont en recevoir 800 000. Et puis Madame Breton dans Le Soleil revient elle aussi sur le dossier Lu Changkwang et en disant que c'est enfin un dossier clos. Cette bâtonnière a donc démissionné. Il faut tirer des leçons de la crise du barreau du Québec. Elle dit ce serait bien commode de considérer cette affaire comme une simple et virulente chicane entre avocats après les élections du printemps. Ce serait bien commode de croire que le changement de bâtonnière règle tout et qu'aucune remise en question n'est nécessaire. Et au-delà du cas de Lu Changkwang, la saga de l'été soulève pourtant des questions d'intérêt pour monsieur, madame, tout le monde, notamment sur le programme de traitement non judiciaire des infractions criminelles commises par des adultes. Un programme qui existe depuis 20 ans, mais dont bien des gens ont appris l'existence le 1er juillet lorsque la presse a dévoilé que l'avocate Kwang avait accepté d'y recourir à la suite d'une plainte pour vol à l'étalage au magasin Simons de Laval. Cette information doit normalement rester confidentielle. Si 100 000 personnes n'ont pas vu leur dossier étalé sur la place publique, Mme Kwang n'a pas connu le même traitement. Pourquoi ? D'autres se demandent pourquoi une avocate a pu profiter d'un tel programme. La ministre de la Justice doit fournir des réponses satisfaisantes, dit Mme Breton, pour assurer la crédibilité du programme et du système de justice. Ça fait la une de la Tribune ce matin. Mandat de grève à 88%. Les enseignants accentuent la pression. Ça fait d'ailleurs non seulement la une, mais aussi les pages 2 et 3 de ce quotidien ce matin. Les enseignants qui veulent envoyer un message clair. Les écoles de la région seront perturbées par une grève au cours des prochaines semaines. Les membres du syndicat de l'enseignement de l'Estrie, la SEE, se sont prononcés en faveur d'un mandat de grève de 6 jours à 88%. Le C, appelons-le comme ça, regroupe 3 500 enseignants des commissions scolaires francophones de la région, soit de la région de Sherbrooke, des Sommets et des Hauts canton. C'est un mandat fort. Les offres patronales sont jugées méprisantes. C'est une atteinte à nos conditions, a commenté le président du C, Benoît Houle, en soulignant que les impacts sur les enseignants et les élèves sont trop lourds pour baisser les bras. Les enjeux concernent notamment l'augmentation du nombre d'élèves dans les classes, la diminution des services et l'augmentation de la tâche des professeurs. Je finirai rapidement avec le Conseil régional de l'environnement et du développement durable dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean et Nicole Huybens qui nous dit que ce Conseil régional-là a un projet qui va être présenté à la presse aujourd'hui, l'implantation d'un réseau régional d'aires de stationnement incitatif pour le covoiturage. Le projet est fort simple, les municipalités partenaires s'engagent à mettre à la disposition des covoitureurs des aires de stationnement réservées de 6h à 22h. Les personnes qui souhaitent diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, dépenser moins en transport et faire des connaissances, pourront passer de leur voiture dans une autre, ou le bus, l'autocar, un taxi, ou continuer leur trajet en vélo en laissant leur auto dans un endroit sécuritaire. À Saint-Fulgence, où j'habite, dit-elle, le stationnement se situe à un endroit stratégique près de la maison communale, de l'église et de la poste. Il y en a des bonnes idées, hein? Avis à nos hommes politiques, mais en attendant, c'est toujours les voies de service sur les ondes de Canal M. Et dans le domaine culturel, on revient aujourd'hui sur l'affaire Natacha Saint-Pierre. Vous savez qu'elle a enregistré une vidéo. Non, mais ce sera bref. Hein. Ce sera très, très bref parce que la pauvre petite chouette, elle s'est enfoncée encore plus. Elle a voulu justifier le choix des plumes et des machins et du truc.
Est-ce possible?
Oui, ben oui, qu'est-ce que tu veux? Alors, elle a déclaré, et ben évidemment, je ne dis pas qu'un Acadien, c'est un Amérindien ou qu'un Amérindien, c'est un Acadien. Simplement que ces peuples cohabitent en Acadie depuis très longtemps. Ils font donc partie de notre histoire. Elle dit aussi « Je suis triste d'apprendre que certaines personnes ont pu être offensées par mon clip « Tous les Acadiens ». Ce n'était nullement mon intention, puisqu'au contraire, j'étais heureuse de travailler et de présenter un album qui parle de mes racines. » Sur le sujet, en page 47-48 du Journal de Montréal, Madame Durocher s'exprime et elle dit « Natacha Saint-Pierre perd des plumes. La guerre de la rectitude politique a encore fait une victime. » Alors voilà, cette fois, c'est Natacha Saint-Pierre qui se fait huer parce qu'elle a osé porter une coiffe indienne à plumes dans une vidéo. « Appropriation culturelle », ont crié certains. « Les Acadiens ne sont pas des Amérindiens », ont hurlé d'autres. « Ce que tout ce beau monde semble oublier », dit Madame Durocher, « c'est que Natacha Saint-Pierre voulait rendre hommage aux peuples autochtones qui ont mené la lutte aux Anglais, aux côtés des Acadiens, avant la déportation. Alors avant de la ridiculiser, ils devraient peut-être relire leur livre d'histoire », dit Madame Durocher, qui défend donc Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, qui a donc lancé cet album le 2 octobre, nous raconte-t-elle. Il faut aussi savoir que dans cet album, Mon Acadie, elle y reprend aussi magnifiquement la superbe chanson de Michel Comte, Évangeline, et elle réussit à faire chanter la bastringue de la Bolduc à Michel Fugain. Et elle reprend Cap enragé de Zachary Richard en duo avec Rock Voisine, lui aussi originaire du Nouveau-Brunswick. Bref, c'est clair dans le choix de chansons et dans le choix d'instruments, banjo, violon, harmonica, que Natacha Saint-Pierre renoue avec ses origines acadiennes. Personne ne s'en offusque, mais il suffit qu'elle porte une coiffe à plumes et ça soulève un tollé. Pourtant, Natacha Saint-Pierre avait été extrêmement claire lors de son passage à l'émission de Penelope McQuaid. Elle considérait que les Autochtones avaient joué un rôle très important auprès des francophones en Acadie quand ils se sont battus contre les Anglais. Je trouvais ça très le fun de laisser au peuple amérindien une vraie place dans l'album qui est très oublié de nos livres d'histoire et qui a joué un rôle important, avait-elle déclaré. Et en plus, et sur cet album, elle chante en Iroquois et en Micmac. Alors, donc, voilà comment Madame Durocher défend Natacha Saint-Pierre. Moi, je dirais que oui, elle a pas tort, surtout si elle chante en Micmac, mais peut-être pas sur la chanson « Tous les Acadiens, tous les Acadiennes, quoi. Là, il y avait vraiment quelque chose qui était peut-être, à mon avis, un petit peu raté, un petit peu à côté de la plaque, mais bon, d'un autre côté. Littérature et politique. Ça s'appelle La lente agonie du bloc. C'est Marco Fortier qui nous dit dans Le Devoir qu'un essai sera lancé la semaine prochaine. Un essai qui a été rédigé par l'auteur Martine Tremblay, qui raconte la formidable ascension du bloc québécois au début des années 90, sa domination sans partage durant des années, puis son lent déclin à partir du milieu des années 2000. L'auteur, qui a notamment été chef de cabinet de René Lévesque et sous-ministre adjointe, a mené des dizaines d'entrevues avec des bloquistes de premier plan pour produire ce bouquin de plus de 600 pages. La rébellion tranquille raconte, c'est le titre de cet essai, La rébellion tranquille, qui raconte sans complaisance l'histoire de ce parti qui devait durer une seule élection pour aider le Parti québécois à gagner son référendum sur l'indépendance. Je suis fait, confie Gilles Duceppe à un de ses députés le 2 mai 2011, avant même de connaître le résultat du scrutin qui allait dévaster son parti. Le chef du Bloc québécois savait que la néo-démocrate Hélène Laverdière allait lui ravir sa forteresse de Laurier-Sainte-Marie qu'il détenait depuis plus de deux décennies. Le coup de tonnerre a été encore plus fort. Le nouveau Parti démocratique a remporté 59 des 75 sièges au Québec, alors que le Bloc n'en a gardé que 4. L'aventure et la mort de ce... Parce que, bon, c'est là un petit peu quand même chronique de la mort annoncée du bloc que vous intéresse. Je vous rappelle le titre de cet essai, « La rébellion tranquille », écrit par Martine Tremblay. Et alors, au même moment, et ça c'est vraiment saisissant, figurez-vous qu'il vient de sortir, sous la plume de Huguette Young, une bio non autorisée de Justin Trudeau qui s'appelle « L'héritier ». Et par exemple, on y apprend que n'eût été de l'ancien chef libéral Stéphane Dion, Justin Trudeau et Thomas Mulcair ne se livreraient peut-être pas bataille actuellement pour déloger les conservateurs de Stephen Harper. Et c'est ce que révèle cette nouvelle biographie de l'actuel leader du Parti libéral du Canada. Lorsque le député libéral Jean Lapierre annonce en 2007 qu'il démissionne de son poste de député d'Outremont, tous les regards se tournent vers Justin Trudeau. Celui-ci aimerait tenter sa chance lors des élections partielles dans cette circonscription qu'il habite, mais le chef libéral d'alors, Stéphane Dion, lui barre la route. Il préfère lancer dans la mêlée l'ancien directeur des pages internationales du Devoir, Jocelyn Coulon. Alors on connaît la suite, le néo-démocrate Thomas Mulcair met facilement la main sur cette forteresse libérale, tandis que Justin Trudeau s'imposera plutôt dans Papineau. Alors voilà ce qu'on apprend, notamment bien sûr, dans ce livre, L'héritier, une biographie non autorisée parue lundi, qui analyse justement l'ascension politique de l'actuel chef libéral Justin Trudeau, qui s'appuie sur des rappels historiques, sur des anecdotes et sur des témoignages de plusieurs acteurs politiques. C'est l'ex-correspondante parlementaire Huguette Young qui pose ce regard critique sur le parcours du fils de Pierre-Éliott Trudeau, sans toutefois y aller de révélations explosives. Et incroyable mais vrai, c'est ça parfois l'actualité. Rima El Khoury dans La Presse nous parle d'un autre bouquin qui va sortir et qui fait également référence aux élections, ou du moins aux principaux ténors qui marquent cette élection-là, cette campagne-là. Mais justement, quand on parle de ténors, on ne parle pas de soprano. Et c'est là que je veux en venir. Ça s'intitule « L'illusion d'égalité ». Et elle nous dit, Rima El Khoury, au palmarès mondial de l'égalité homme-femme dans les parlements, tant le Québec, 44e, que le Canada, 48e, on est en retard. Un retard d'autant plus inquiétant qu'il ne semble pas inquiéter grand monde. Avez-vous vu un seul chef politique en faire un enjeu électoral ? Demande Rima El Khoury. Choquée par le haussement d'épaules, même parmi les femmes, que suscite cette question cruciale, la journaliste et auteure Pascale Navarro tente de secouer notre inertie en lançant cette semaine un plaidoyer pour la parité. Son court essai, « Femmes et pouvoirs, les changements nécessaires », qui est sorti chez l'EMEAC, explique l'importance de la parité, déboulonne les mythes à son sujet, propose des solutions pour l'atteindre et rappelle que l'égalité des sexes ne devrait plus être uniquement le combat des femmes. Voilà une lecture d'Irima El Khoury qui devrait être obligatoire pour toute la classe politique, femmes et hommes inclus. Immortelle Janis, mais oui, Janis Joplin, 45 ans après sa mort, Janis Joplin est aujourd'hui le sujet d'un excellent documentaire. La voix déchirante de l'icône de la fin des années 60 résonne plus que jamais dans Janis, Little Girl Blue. C'est le titre de ce documentaire, Janis Joplin ou le blues éternel. C'est la documentariste Amy Berg qui tire un portrait intime et vibrant de Janis Joplin. Marc-André Lucier écrit dans la presse qu'à la sortie de cet excellent documentaire, Janis Little Girl Blue, une seule pensée nous traverse l'esprit. Puissent les planètes bien s'aligner maintenant, afin de permettre à Jean-Marc Vallée de concrétiser bientôt son projet de film sur Janis Joplin. L'amour légendaire du cinéaste québécois pour la musique et la culture rock s'harmonisera sans doute à merveille avec le destin fulgurant de cette icône, d'autant que les deux œuvres pourront sans doute bien se compléter. Il reste en effet ici un bel espace dans lequel peut s'insérer la vision d'un cinéaste. On sait que le projet, dont la tête d'affiche est Amy Adams, est présentement coincé dans un imbroglio juridique. Jean-Marc Vallée, rencontré plus tôt cette semaine, affirmait toutefois avoir bon espoir de voir un règlement à brève échéance. Souhaitons-le. En attendant, on pourra plonger dans l'histoire de cette chanteuse d'exception grâce à ce document produit par la chaîne publique PBS dans le cadre de la série American Masters. On ne pourra d'ailleurs faire autrement que d'établir un parallèle avec Amy, le film qu'Asif Kapadia a récemment consacré à Amy Winehouse, d'autant que les deux chanteuses sont mortes au même âge. La différence réside dans le fait que Janis a vécu à une époque où, contrairement à l'interprète de Back to Back, les artistes ne vivaient pas constamment devant une caméra. Janis Joplin aurait 72 ans aujourd'hui. On l'écoute un petit bout ?
Looking, babe, she's looking good now.
Ah, c'est aussi déchirant que sa voix, hein, d'être obligé de fêter cela, mais que voulez-vous? J'ai une émission à finir, mes amis. Janis Joplin, donc. Ah, c'est vrai que... Est-ce qu'on a remis finalement Guy Béard? Non, je pense qu'on avait oublié, ou je sais plus. On l'a fait jouer. Ah, merci beaucoup, mon petit. Mathieu. Juste quelques mots de Francine Pelletier, parce qu'elle nous livre une opinion bien sentie tous les mercredis dans Le Devoir, généralement je vous lis. Elle nous parle aujourd'hui de l'authenticité des hommes politiques, excusez-moi du peu, Donald Trump, Denis Coderre, Colette Roy, Amir Kadir, Véronique Yvon, tellement d'autres, Alexis Tsipras. Qu'ont tous ces politiciens en commun? Et elle répond, l'authenticité. Elle dit « On peut les aimer ou non, on peut les croire promis un brillant avenir ou les vouer aux gémonies, on a tendance à les croire quand ils parlent. Ils ont beau dire parfois des énormités, Donald Trump s'en fait d'ailleurs une spécialité, Ils impressionnent par leur capacité d'être entièrement et dans certains cas férocement eux-mêmes. De plus en plus, c'est ce qui marche en politique, disent les experts. Ce n'est pas l'expérience que vous avez qui compte, c'est votre capacité d'avoir l'air vrai. Et c'est ce qui expliquerait le succès de l'improbable candidat républicain Trump. Alors que la doyenne de la scène politique, Hillary Clinton, connaît des revers. L'élection aussi du nouveau chef du Parti travailliste anglais, un radical, Jeremy Corbyn, avec un Y, j'imagine, C-O-R-B-Y-N, un radical qui, à 66 ans, n'a pas la prétention de plaire à tout le monde et à son frère. Le nouveau chef vient de cracher dans la soupe de Tony Blair, tournant le dos au compromis centriste qui emportait le New Labour au pouvoir de 1997 à 2010. Elle dit aussi que, curieusement, l'idée d'être fidèle à soi-même fait également partie du message de Lynton Crosby, le dénommé magicien d'Oz, venu sauver la campagne conservatrice des eaux. Les gens ne votent pas pour une politique, dit l'éminence grise, responsable de la réélection des conservateurs en Grande-Bretagne. Ils votent à partir de l'idée qu'ils se font de vous. D'ailleurs, une évaluation des publicités de campagne publiée cette semaine montre que ce sont celles où les politiciens se dévoilent personnellement qui fonctionnent le mieux. Par exemple, les publicités du NPD attaquant la corruption chez les conservateurs ont complètement raté leur cible, alors que celles où Thomas Mulcair parle de lui cartonnent. Mais M. Mulcair aura beau multiplier les sourires et les pubs sentimentales, il aura toujours, vu son parcours tortueux, libéral néo-démocrate et son penchant mi-fugue mi-raisin, une côte à remonter pour ce qui est de l'authenticité. Le problème de l'homme au double prénom, c'est qu'on n'est jamais tout à fait sûr où il loge. Il a évidemment la tâche inimaginable de transformer le parti de la bonne conscience de la politique canadienne en une machine de guerre. Tout un défi. Les militants qui voient aujourd'hui d'un mauvais œil, le pragmatisme consommé de Mulcair se taise tellement. La perspective de former le prochain gouvernement est euphorisante. Mais il y a des raisons de croire que le NPD a déjà commencé à payer ce goût du louvoiement. Le parti fait du surplace dans les sondages depuis une semaine ou deux. Alors, on comprend que chacun lorgne dans la cour de l'autre, avec ses publicités notamment, mais qui dit vrai? Qui des chefs croit vraiment ce qu'ils avancent? C'est impossible de le dire pour l'instant, et c'est bien ce qui de plus en plus décourage, cette espèce de mensonge-là. Le naturel, pourtant censé revenir au galop, est une denrée encore trop rare en politique, et particulièrement, conclut Francine Pelletier, évanescente en campagne électorale. Voilà, ainsi s'achève ce magazine ce matin, Les Voix de Service. Merci à vous toutes et vous tous d'avoir été là encore une fois. Je vous invite à communiquer avec nous pour nous dire si vous l'aimez, cette formule, ou pas, pour nous donner une tape dans le dos ou une tape sur les mains. N'hésitez vraiment pas en passant par le site www.vuesetvoix.com, donc par le site de Vues et Voix. Et là, vous arrivez directement sur la radio Canal M. Je vais m'étouffer un instant. Merci beaucoup. Et je voudrais remercier Mathieu Tessier à la technique et au choix musical, les instruments, tout ça, vous savez, c'est bien important. Et souhaiter à nouveau la bienvenue à Christiane Campagna qui va vous présenter le bulletin du handicap. Passez une bonne journée et à demain, 9h.
Du handicap.
Christiane, vous me laissez une petite seconde?
Allez-y.
Parce que je suis assez énervée et j'ai oublié de le dire dans mes remerciements. J'ai reçu, parce qu'il faut que je vous avoue que j'ai profité de sa présence, trop rare sur le territoire. J'ai reçu Dany Laferrière et vous allez pouvoir entendre dans quelques minutes cet entretien qu'il a accepté de me donner entre deux rendez-vous, cet homme pressé. Alors ne manquez pas ça. Merci de m'avoir laissé ce temps-là. Christiane, au revoir.
Bonjour, ici Christiane Campagna et voici vos manchettes en ce mercredi 16 septembre. Le ministère du Tourisme renouvelle son protocole d'entente avec Kiroul pour favoriser l'accès au tourisme et à la culture. L'INLB participe à la formation des employés du réseau de transport de Longueuil. Indépendance, première école de danse certifiée RAD à Québec. L'agenda chargé de la nageuse Camille Bérubé et joueuse de go-ball recherchée. Afin de poursuivre le développement et la promotion du Québec comme destination accessible pour tous, la ministre du Tourisme, Mme Dominique Vien, a annoncé vendredi dernier le renouvellement du protocole d'entente triennale avec l'organisme Kiroul. Kiroul a pour mission de rendre le tourisme et la culture accessibles aux personnes ayant une incapacité physique. Depuis 1979, il évalue notamment l'accessibilité des établissements touristiques et culturels du Québec. Le renouvellement du protocole contribuera, entre autres, à réaliser différentes actions liées à la formation du personnel sur l'accueil des personnes handicapées, à l'évaluation de l'accessibilité des sites touristiques pour les personnes handicapées, au service conseil à l'industrie touristique pour développer une offre accessible et à la promotion de l'offre accessible et de la route accessible. Pour ce faire, une aide financière de 600 000 $ répartie sur 3 ans sera octroyée à Kiroul dans le cadre du programme de développement de l'industrie touristique. Des spécialistes en orientation et mobilité et des intervenants du service de soutien à la communauté de l'INLB participeront à la formation des employés du réseau de transport de Longueuil, le RTL. En effet, le RTL a mis sur pied un programme de formation continue pour ses employés affectés au transport adapté. L'objectif de cette formation est de sensibiliser le personnel sur les problèmes auxquels est confrontée la clientèle ayant un handicap lors des déplacements et de fournir aux employés les outils nécessaires afin de mieux répondre aux besoins de celles-ci. Les intervenants de l'Institut participeront donc dès cet automne à 8 de ces formations, plus spécifiquement pour la clientèle ayant une déficience visuelle. Ils y feront de la sensibilisation et enseigneront notamment les techniques de guide humain. Amorçant sa 4e année d'existence, l'école de danse Indépendance de Beauport innovera cet automne en accueillant dans ses nouveaux studios de la rue Seigneuriale des jeunes danseurs ayant une déficience physique et intellectuelle. Première école de danse certifiée RAD à Québec, par le biais du projet lancé par Luca Patuelli, l'établissement offre différents styles de danse comme le jazz, le contemporain, le hip-hop, la danse créative et le ballet classique. Après 3 ans passés dans des locaux situés au sous-sol de l'ancienne caisse des Jardins de Beauport, l'école vient d'emménager dans des espaces plus vastes et adaptés aux besoins de sa clientèle au rez-de-chaussée du centre commercial La Halte des Seigneurs. Nous avons tenu dernièrement une journée porte ouverte qui a connu un franc succès, emportant en plus de 250 le nombre de nos élèves, dont l'âge varie de 2 à 60 ans, soulignent les deux directrices, Marie-Noëlle Goulet et Émilie Harvey. Pour obtenir cette première certification RAD, qui veut dire réservée aux danseurs, à Québec, Marie-Noëlle Goulet et Émilie Harvey ont suivi une formation spéciale sur 2 jours à Montréal avec le danseur professionnel, conférencier motivationnel et chorégraphe Luca Patuelli, atteint lui-même d'une maladie qui s'attaque aux articulations. Depuis cette rencontre, l'École de danse Indépendance a augmenté son programme d'activité en se déplaçant aussi dans les écoles primaires du Parc et des Cimes, ainsi que dans les écoles secondaires de la Courvilloise, Académie Sainte-Marie et Saint-Jean-Eudes, pour donner des cours et des ateliers qui ont pour mission d'encourager l'estime de soi et améliorer la condition physique des jeunes ayant divers handicaps. Nous nous spécialisons dans l'accueil de clientèle avec des besoins particuliers, tels que la déficience physique, la déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme et tout besoin particulier. Au moyen de la danse urbaine, nous enseignons que tout le monde peut participer aux activités à sa façon. Nos devises sont pas d'excuses, pas de limites et tout le monde peut danser, ajoutent les deux directrices. Soulignant que le bouche à oreille faisait bien son chemin, Marie-Noëlle Goulet et Émilie Harvey ont mentionné au Beauport Express que deux groupes de 6 jeunes participeront aux ateliers RAD de la prochaine session dans les nouveaux locaux de l'école. À 20 ans, la nageuse Camille Bérubé a déjà un agenda très chargé. Inscrite comme étudiante à temps plein à l'Université d'Ottawa, elle doit jongler avec les nombreux entraînements, les camps d'entraînement aux États-Unis, les compétitions, les études et bien sûr la préparation pour les Jeux paralympiques. Car le compte à rebours est commencé. Dans moins d'un an, les meilleurs athlètes des quatre coins de la planète convergeront vers Rio de Janeiro au Brésil. La Gatinoise s'est entraînée depuis la fin des Jeux de Londres il y a 3 ans, espérant revivre cette expérience paralympique. Ce qui veut dire que la vie sociale, la famille et même un peu les études, alors que Camille doit suivre un peu moins de cours pour alléger son horaire, doivent prendre moins de place. Par exemple, elle quittera la région durant le temps des fêtes pour un camp à Hawaï. Des sacrifices? Pas vraiment, affirme l'étudiante en communication. Je ne vois pas ça de cette façon. Ce sont mes choix, mes décisions et je vis bien avec. Je vois dans le mot sacrifice une connotation négative. Je vis ma passion en ce moment, j'aime ce que je fais. Ce ne sera pas le seul camp pour Camille. À l'automne, elle sera en Arizona. Peu avant Noël, les meilleurs paranageurs du Canada et des États-Unis se donneront rendez-vous au Dakota du Nord. Et au printemps, la Floride attendra la triple médaillée des Jeux parapanaméricains en 2015. Mais tout ceci n'aura pas de répercussions sur ses chances de qualification pour les Jeux. Seuls les essais paralympiques du 5 au 10 avril à Toronto comptent. Elle devra figurer parmi les meilleurs athlètes selon le classement mondial pour obtenir son laissez-passer pour la capitale brésilienne. Camille ne prendra rien à la légère d'ici le mois d'avril. Chaque compétition est importante, chacune est une évaluation. Je vois ça un peu comme une simulation de ce que je dois faire et une évaluation d'où je suis rendue dans mon cheminement. D'ici là, retour à la réalité pour Camille qui a connu un bel été. Jeux parapanaméricains à Toronto, suivi de 3 semaines de vacances en Europe. Elle est revenue la semaine dernière. Ça fait comme une petite claque au visage, mais le retour se passe bien, a conclu l'ancienne porte-parole du club de natation de Gatineau. L'Association sportive des aveugles du Québec, l'ASAC, est à la recherche de 4 jeunes femmes pour compléter son équipe de go-ball. Elle cherche des joueuses qui ont le goût de s'investir dans un sport d'équipe, de se dépasser, de voyager et qui sait, d'avoir un jour la chance de participer aux Paralympiques. Les entraînements ont lieu les dimanches entre midi et 15h30 à partir du 27 septembre à Montréal. Les jeunes femmes doivent être âgées de plus de 16 ans, ne pas avoir peur de l'inconnu et de se dépasser. Pour en savoir plus, communiquez avec Nathalie Chartrand au 514-252-3178 poste 3768 ou par courriel au nchartrand@sportaveugle, un S à sport et un S à aveugle, .qc.ca. Alors, c'était Christiane Campagna avec votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vuzévoix. Le bulletin ainsi que des liens vers les nouvelles et les organismes mentionnés dans le bulletin sont disponibles au vuzévoix.com. Aussi, si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles au canalm@vuzévoix.com. Bonne journée à tous!